C'est l'heure du journal d'Hélène Roussel. Bonjour Hélène.
Bonjour. Un réveil glacé, alerte grand froid au nord et une caténaire gelée à Poitiers. Les TGV Paris-La Rochelle toujours bloqués. Pas d'amélioration avant la mi-journée. Dans l'actualité encore, c'est Covid mutant qui affole la Moselle. Olivier Véran sur place hier, testé, vacciné plus. Mais la fermeture des écoles toujours en débat. Des élèves qui n'ont plus cours du tout aux États-Unis. Depuis un an d'école à la maison, les parents craquent. Une ligne téléphonique spéciale a dû être ouverte. Deux statuettes pour un seul homme, Benjamin Biolay, la star hier soir des 36e victoires de la musique. Les sports, le tennis, c'est terminé pour les tricolores à l'Open d'Australie. Mladenovic balayé en moins d'une heure cette nuit. Et puis coup de projecteur et de chapeau à la fin de ce journal. L'athlète handisport Marie-Amélie Le Fur a remis le couvert. On en parle dans Esprit Sport.
Et puis notre invité ce matin à 8h20, ce sera l'eurodéputé du Rassemblement National, Thierry Mariani.
France Inter.
Les vacances pour une bonne partie de la France, sous Covid et sur la glace. Après la pagaille hier sur les routes et les rails de l'Ouest provoqués par les pluies verglaçantes, ce matin c'est la ligne Paris-La Rochelle qui est totalement interrompue, zéro TGV et ça va durer au moins jusqu'à la mi-journée. Une caténaire a gelé du côté de Poitiers, les trains immobilisés, chaos dans la gare assurée. Reportage Julien Prouvoyeur.
Ils sont des dizaines à s'amasser dans le grand hall de la gare de Poitiers. Laetitia a les yeux rivés sur le tableau d'affichage.
Je devais rentrer chez moi à 10h15 jusque Lille avec une correspondance que je n'aurais pas et qu'on n'a pas été prévenu et c'est surtout ça qui me saoule.
Bordeaux, Paris, La Rochelle ou encore Bruxelles, la liste des trains annulés s'allonge. Guillaume et ses deux filles devaient aller à Paris et dans le froid, tout semble plus long.
C'est un peu la surprise, on s'y attendait un peu par rapport aux infos à la radio, quoi, voilà, que ça risquait d'être un peu tendu. Mais oui, après c'était un peu la surprise en arrivant. Quoi, voilà.
Mais tous n'ont pas décidé d'attendre, Pauline a déjà annulé son voyage à Valenciennes.
Donc on nous a remboursé automatiquement, donc ça c'est très bien. Et il faut qu'on fasse le nécessaire pour se faire rembourser le train retour, parce que de toute façon, ils ne peuvent pas savoir comment va évoluer la météo pour la journée.
Valentin n'a pas cette chance, il devait rentrer chez lui à Paris.
Il conseillait de décaler le voyage demain. Après, il faut trouver un hôtel.
Et la SNCF annonce qu'il n'y aura pas de retour à la normale avant midi.
Julien Prouvoyeur de France Bleu Poitou. Et puis attention, température glaciale attendue au nord aujourd'hui. 13 départements en alerte grand froid. La Bretagne toujours en vigilance orange, neige, verglas. Idem pour 8 départements de la Loire aux Deux-Savoie.
Et la météo à la fin de ce journal. Les variants du Covid circulent beaucoup plus en Moselle qu'ailleurs, et la situation est inquiétante, a dit hier le ministre de la Santé.
Olivier Véran sur place à Metz avec 100 nouveaux cas par jour. Difficile de ne pas voir à quel point la Moselle clignote en rouge sur la carte des Covid mutants. Pourquoi ce département plus qu'un autre? La proximité avec l'Allemagne, le Luxembourg, peut-être. Aucune explication scientifique valable pour l'instant. En attendant, il faut sortir les boucliers. Tester plus, vacciner plus, isoler plus. Le résumé des mesures avec Boris Loumagne.
Le constat d'Olivier Véran est clair. La situation en Moselle n'est pas hors de contrôle. D'abord, l'ARS parvient à remonter toutes les chaînes de contamination, même celles qui concernent les variants. L'isolement de ces patients fonctionne bien lui aussi. Donc il faut surtout renforcer les mesures existantes. Plus de tests d'abord, plus de vaccins également. 2000 doses en plus vont être livrées dans les prochains jours. Les centres de vaccination vont être ouverts vers le week-end. Et enfin, tout nouveau cas de coronavirus sera considéré comme un cas potentiel de variant. L'isolement des personnes positives passera donc de 7 à 10 jours. Toutes ces mesures sont accueillies assez froidement par les élus locaux. Ils demandaient dans leur grande majorité la fermeture des écoles, une piste qui reste sur la table selon Olivier Véran. Décision attendue dans les prochains jours.
Sans doute avant la fin du week-end, quant à un confinement local réclamé par certains élus de Moselle, il serait lui aussi toujours en discussion. Des variants qui restent mystérieux, d'où l'inquiétude aussi. Serait-ce un peu comme un autre virus? En tout cas, voici un patient contaminé, sans gravité par le Covid, disons classique, en septembre, réinfecté 4 mois plus tard, cette fois beaucoup plus gravement et avec un variant. Publication de médecins de la PHP, une première du genre. Cette préconisation aussi de la Haute Autorité de Santé hier. Une seule dose de vaccin suffit, dit-elle, pour les personnes qui ont déjà été infectées. Leur corps aurait développé une sorte de mémoire immunitaire. L'autorité recommande d'attendre au moins 3 mois après la maladie pour l'injection. Le gouvernement doit lui donner son feu vert. Comment remporter la course contre le Covid? Comment accélérer la campagne de vaccination? Une solution proposée par Moderna. Le laboratoire propose d'augmenter de moitié la capacité des flacons, jusqu'à 15 doses au lieu de 10. Les différentes agences du médicament doivent donner leur accord. On parlait des écoles en Moselle, faut-il les fermer? Eh bien, la question dans certains pays se pose à l'envers. Faut-il les rouvrir? Oui, disent hier les centres américains de prévention et de lutte contre les maladies, car on le sait peu. Mais aux États-Unis, de nombreux établissements sont porte-close depuis un an. Un an que ses parents font l'école à la maison H24. Femme au bord de la crise de nerfs, c'est un reportage de notre correspondant à Washington, Grégory Phillips.
La situation est telle que le New York Times a ouvert en décembre une ligne téléphonique que le journal a baptisée la ligne du cri primal, sur laquelle les parents peuvent laisser des messages. Le répondeur est saturé par les appels de mères de famille, épuisées. Celle-ci raconte « J'en ai tellement marre de mes fichus enfants ». Celle-ci en pleure. Cette pandémie m'a fait réaliser que peut-être je ne suis pas une bonne mère. Une autre témoigne. La seule chose que j'entends toute la journée, c'est « Maman ». En un an, 1 million de mères de famille ont quitté le marché de l'emploi américain. Une sur trois raconte que c'est pour pouvoir s'occuper des enfants restés bloqués à la maison. Joe Biden a donc promis que les écoles et les collèges du pays rouvriraient au plus tard à la fin avril. Et le CDC, le Centre américain de contrôle et de prévention des maladies, a publié hier sa feuille de route. Port du masque obligatoire, distanciation physique, lavage des mains, ventilation des locaux, isolation et suivi des personnels et des élèves contrôlés positifs au coronavirus. Mais ce n'est pas encore un feu vert à la réouverture de toutes les écoles américaines et les syndicats enseignants sont majoritairement opposés à un retour en classe si les conditions sanitaires ne sont pas réunies. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Et où sont les papas dans tout ça, me demanderez-vous? Je vous répondrai que je me pose la même question. On reste aux États-Unis. En bref, peu de chances que Trump soit condamné. Il faut la majorité des 2/3. Le Sénat est à 50-50 entre les démocrates et les républicains. Mais réponse tout à l'heure, dans l'après-midi, pour un procès en destitution qui restera dans l'histoire des États-Unis. Un ancien président poursuivi pour incitation à l'insurrection. Hier, les avocats de Donald Trump ont dénoncé un procès injuste et un acte de vengeance politique. Pendant ce temps, Joe Biden poursuit la rupture. Il souhaite, dit-il, fermer l'emblématique prison de Guantanamo avant la fin de son mandat pour peut-être réussir là où Barack Obama avait échoué. L'actualité à l'étranger encore, c'est l'Italie avec Mario Draghi qui renverse l'échiquier politique. L'ancien patron de la Banque Centrale Européenne a réussi à rallier la quasi-totalité des partis de l'extrême droite au mouvement 5 étoiles, des technocrates aux partisans de Berlusconi. Large coalition donc autour de celui qui prend les rênes du gouvernement, Super Mario, comme il est surnommé, a accepté hier le poste de Premier ministre. Il prête serment tout à l'heure à midi. Et puis la Birmanie où la contestation ne faiblit pas malgré les arrestations. 350 politiques, étudiants, journalistes interpellés en moins de 2 semaines. Nouvelle manifestation ce matin contre le coup d'État des militaires.
Des cyberpirates derrière les attaques d'Ubisoft et de Westfront.
Information France Inter, un groupe de cyberpirates présumé, connu sous le nom de Egregor, a été en partie démantelé. Plusieurs interpellations cette semaine. Un groupe, Emmanuel Leclerc, qui est à l'origine de plusieurs centaines d'attaques et de demandes de rançon à travers le monde entier.
Des enquêteurs de l'Office central de lutte contre la cybercriminalité et un magistrat parisien ont pris part à cette opération sans précédent en Ukraine. Elle a démarré mardi matin, ce que confirme le parquet de Paris qui avait ouvert une enquête discrètement le 6 novembre dernier. Après plusieurs attaques d'envergure avec demande de rançon, des cyberattaques revendiquées par un groupe criminel Egregor apparu en septembre dernier. Le journal Ouest France, le groupe Ubisoft ou encore le transport Jeffco ont été la cible d'un rançongiciel très agressif qui a la faculté, au-delà de voler des données sensibles et de paralyser les systèmes d'exploitation informatique, et bien de prendre le contrôle des photocopieuses des sociétés en réseau et de faire imprimer les demandes de rançon. En l'espace de 4 mois, les enquêteurs ont pu remonter la piste des rançons payées en bitcoin sur internet avant de localiser plusieurs suspects en Ukraine.
Emmanuel Leclerc et au royaume du numérique, voici l'or version millénium, il en parlait Emmanuel Leclerc, le bitcoin, avec Jack Dorsey, le fondateur de Twitter, qui annonce hier la création, avec le rappeur Jay-Z, d'une fondation pour financer le développement de cette monnaie virtuelle. Mise de départ 500 bitcoins, ça vaut quand même dans les 24 millions de dollars. Enfin, 48 ans et 6 victoires de la musique au compteur, dont 2 rien qu'hier. Benjamin Biolay, décidément l'homme de la soirée, la victoire de l'artiste masculin, une autre pour l'album de l'année. Benjamin Biolay ne boude pas son plaisir malgré le contexte jamais blasé.
J'ai commencé il y a longtemps en fait, la première fois que j'ai eu la chance d'en avoir une, c'était il y a 20 ans. Et là je me rends compte et je me dis, je veux pas paraître, je veux pas paraître lugubre, mais là je me dis peut-être c'est la dernière fois que je suis là et tout. Même si j'ai une longue vie, vous savez, il y a tellement d'artistes en France que j'en profite tout particulièrement. C'est un peu abstrait les victoires de la musique, vous voyez, mais pour citer Truffaut, c'est une joie et une douleur parce que normalement quand on fait un album qui marche bien comme ça, on partage cette joie et ce succès entre guillemets avec une cinquantaine de personnes. Là, il y a beaucoup de ces gens qui vivent des drames humains terribles. Je suis extrêmement heureux, mais évidemment, il y a un côté doux amer qui est inévitable. Et je pense que pour l'ensemble des gens, c'est un peu la même chose, quoi, évidemment.
Je crèverai pas tout seul, allongé dans la pénombre bleutée.
Grand prix du nom aussi de l'album consacré hier. C'était donc Benjamin Biolay avec Mathieu Culeron. L'autre grande gagnante de cette 36e cérémonie des Victoires de la Musique, c'est la chanteuse Pomme, sacrée artiste féminine, révélation pour Iseut et Hervé. Et puis une cérémonie marquée par les discours engagés pour plus de soutien aux intermittents et contre la domination masculine. Hashtag musique tout après MeToo.
Après la musique, les sports.
Et ça y est, c'est officiel, c'est terminé. Plus de Français du tout sur les courts de tennis de Melbourne. Bonjour Fabrice Abgral.
Bonjour.
Kristina Mladenovic a été balayée cette nuit en 68 petites minutes au troisième tour de l'Open d'Australie.
1h08, c'est en effet la durée du match de Kristina Mladenovic, battue sèchement en 2-7 par l'américaine Jessica Pegula. 6-2-6-1, la nordiste n'a jamais pu rivaliser avec la native de Buffalo. La française a été dominée en puissance et en cadence par cette américaine de 26 ans, 61e mondiale, qui atteint pour la première fois les 8e de finale en Grand Chelem. Alors ce samedi est la première des 5 prochaines journées, prévues à huis clos à l'Open d'Australie. Décision prise par les organisateurs suite aux révélations du gouvernement de l'État de Victoria, qui a indiqué hier que 19 personnes à Melbourne avait contracté le variant anglais du coronavirus. Les habitants de la ville ont été reconfinés. Le tournoi, lui, continue, mais sans public. Et ça, c'est bien triste pour Kristina Mladenovic.
C'est vrai que on avait tous retrouvé ce public, ces émotions, enfin le sport, quoi. Et je pense qu'on avait tous repris plaisir là-dedans. Et c'est vrai qu'en cours de tournoi comme ça, et du jour au lendemain, et aujourd'hui être sur un grand court vide, bah, c'était triste, mais bon, voilà.
Le huis clos devrait s'achever mercredi, à moins que le gouvernement de l'État de Victoria ne décide de prolonger le reconfinement de la ville. Et ça, c'est encore possible.
Fabrice Abgral, on continuera de suivre malgré tout, malgré le huis clos, malgré le fait qu'il n'y ait plus de Français. Cet Open d'Australie avec vous sur Inter. On passe à notre esprit sport et on accueille ce matin Jean-Pierre Blimeau. Bonjour.
Bonjour Hélène.
Consacré à l'athlète handisport, Marie-Amélie Le Fur, 32 ans, la championne paralympique, vient de battre un nouveau record du monde. Alors qu'elle avait mis sa carrière entre parenthèses après les Jeux de Rio, la voilà donc revenue au premier plan dans les stades.
Oui, Marie-Amélie Le Fur, c'est cette grande championne, médaillée en or aux Paralympiques de Rio, à la fois sur 400 mètres plat et à la longueur, mais aussi sur 100 mètres, 4 ans plus tôt à Londres, sans compter l'argent et le bronze qu'elle a aussi remporté sur 200 et à la longueur également, championne du monde et d'Europe. Cette jeune femme avait décidé en effet de faire une pause bien méritée après les derniers Jeux à Rio. Amputée d'une jambe à l'adolescence après un accident de scooter, alors qu'elle pratiquait l'athlétisme depuis son enfance, elle savait qu'elle avait des capacités et qu'elle s'était naturellement tournée vers le sport pour s'épanouir et donc vers la Fédération Handisport. Ce qu'elle a fait plus que brillamment, récoltant cette moisson de médailles, et pas seulement dans les grands rendez-vous. Alors après les Paralympiques de Rio, elle avait souhaité prendre en effet du recul et passer à autre chose, construire sa vie aussi. Sur le plan sportif, elle s'était investie pour la candidature de Paris aux Jeux de 2024 dès 2015, devenue également consultante pour France Télévisions, ambassadrice de la campagne contre les discriminations. Elle est aussi devenue, il y a un peu plus de 2 ans, présidente du comité paralympique français. Mais la voilà revenue au premier plan.
Alors pourquoi pas ne pas rêver à de nouvelles médailles l'été prochain, par exemple à Tokyo?
Oui, une perspective rendue possible par cette performance. À 32 ans, vous l'avez dit, elle vient de battre un nouveau record du monde, le sien, 6,14 m à la longueur. Elle a pulvérisé son propre record, ce qui lui permet de redevenir compétitive. Alors pour les prochains Jeux paralympiques qui doivent avoir lieu dans 6 mois à Tokyo, les sensations sont de retour, a lancé la championne qui a elle-même qualifié cette prestation de très prometteuse avec dans l'idée de participer à ses 4e paralympiques après ceux de Pékin, Londres et Rio. Marie-Amélie Le Fur n'a pas encore confirmé qu'elle participerait à cette nouvelle Olympiade, mais ses mots semblent le laisser penser. Je veux ramener à nouveau une médaille d'or et battre encore le record du monde. C'est ce qu'elle a déclaré cette semaine à Dubaï. Wait and see.
Voilà, et on va la suivre avec vous, Marie-Amélie Le Fur. Merci pour ce portrait, Jean-Pierre Blimeau.
C'était dans le journal d'Hélène Roussel. Il est 8h15 sur Inter. Le temps.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour femmes. Laine, fil d'Écosse, soie ou cachemire. Belle et naturelle. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Et attention, hein, Jean-Michel Golinski, il y a encore beaucoup de départements placés sous la couleur orange.
17 départements en vigilance orange, la Charente-Maritime pour crue, une partie du Grand Est, de la Bourgogne-Franche-Comté pour grand froid, et enfin le Finistère, les Côtes-d'Armor et le Morbihan pour pluie verglaçante. Au vu des températures matinales de 0 à moins 4 de la Bretagne à la Charente-Maritime, de moins 4 à moins 9 du nord de la Seine au centre et en Rhône-Alpes, jusqu'à moins 12 à Luxeuil-les-Bains, contraste avec les 8 à 12 degrés matinaux dans le tiers sud. La zone d'humidité qui va toucher la pointe ouest dès ce matin risque de donner des pluies verglaçantes, en particulier sur les trois départements bretons signalés en orange. Des pluies vont également émailler la Provence et la Corse, mais là dans des températures largement positives. Ailleurs, le soleil matinal sera suivi cet après-midi d'un ciel plus voilé sur les régions de la moitié ouest, dans des températures maximales qui évoluent peu par rapport à ces derniers jours et d'à peine 0 degré cet après-midi sur les deux tiers nord, contre 10 à 15 sur les régions méridionales.
Dans un instant, sur France Inter, Thierry Mariani, invité de la matinale, juste après la soul de Céleste qui vient de sortir son tout premier album avec Love Is Back. Ah non, une petite pub d'abord.